Asile FR. Asile FR, magazine radiophonique, la voix des demandeurs d'asile.
هي مجلة إذاعية تعنى بقضايا اللجوء.
Asile FR.
It's a monthly radio magazine speaks with the voice of refugees.
Faites entendre votre voix.
اجعل صوتك مسموعا. Make your voice heard with Asile FR.
السادة المستمعين الأعزاء على أسير راديو كاليدوسكوب 97 FM، أهلا وسهلا بكم ومرحبا إلى العدد السادس من مجلتكم الإذاعية أزيل الفيغ التي تعنى بقضايا اللجوء واللاجئين. أهلا بكم سادتي في كل مكان. So welcome to Asile FR, the sixth emission of December 2013. And several different articles. Asile FR microphone was in Maison des Associations, the House of Associations in Grenoble, and we met Pierre from La Droit de l'Homme, the Human Rights, and we met also Olivier, the second responsible on ADA, the organization that gives the service to the asylum seekers in Grenoble. And we talked and discussed several different articles, so let us start.
Bonjour, bienvenue sur Asile FR, c'est le sixième numéro. Aujourd'hui, nous allons discuter et passer des interviews d'Olivier, de l'ADA, l'association des demandeurs d'asile qui est à la maison des associations, et aussi avec Pierre de la Ligue des droits de l'homme à propos de plusieurs articles.
There is no new law, properly speaking, about asylum seekers. The last reforms, the last changes to the law, date back to 2008, and some of them have been implemented in 2012. The only thing that has actually changed was the election of the President of the Republic, François Hollande, whose program said at one point that he had the ambition when he was elected, when he wanted to get elected before the election, to reform the law for asylum, the asylum right. So far, no changes in terms of law. There are changes in regulations, new instructions given to the local administration, and there are local changes too. Ce qui est en train de changer peut-être, c'est que l'État avait prévu une réforme et qu'ils ont initié cette réforme par quelque chose qui est assez intéressant, qui est de lancer une concertation. Et la concertation a débuté en juillet dernier, une concertation à l'initiative du ministère de l'Intérieur. A consultation means actually that the state, the government, Ministry of Interior, is seeking advice from organizations, from the institutions, from OFPRA, Cour nationale du droit d'asile, large organizations like France Terre d'asile, La CIMAD, etc. And they gather everyone around the table. This roundtable began in July 2013, and it has led to the publication of a report yesterday. The time you have to wait until OFPRA makes a decision, and then the time you have to wait for the Cour nationale du droit d'asile to give its own decision about OFPRA's decision, which in total currently takes about 18 months on average. And everyone has been saying for the past 15 years, this has to be shortened to up to 10 months, 6 months in total. And this roundtable I was talking about that took the past 4 months, just giving the same instructions. I mean, they have the same purpose to limit the time people have to wait until they have a final answer. I don't think this. Dublin 2 is going to be history because Dublin 3 is coming. It should start being implemented from July. And the governments of the European Union, of the Schengen space, have to adapt their, to implement it, because you don't adapt to Dublin, you have to implement it. They have 3 years to do this. And Dublin 3 is good compared to Dublin 2. Dublin 2, you have also to take into account that the Dublin regulation has two purposes. The first one is indeed to avoid people applying for asylum in different countries. And by doing this, this is a flaw in Dublin. You don't give people the freedom to choose which country they want to go. Right. This regulation says the first country where you apply for asylum and they catch you in the first country you cross is the country where you can apply for asylum, and technically you can't go to any other country and apply for asylum again. That was the first purpose. The second purpose was to force members of the Schengen space to implement the right for asylum as well. With Dublin 3, you can't put people in jail for the duration of their wait until they're sent back to another country. In France, we don't do this. France doesn't do this, but in Germany, for example, if you apply for asylum in France, right, and you go to Germany and you want to apply again, Germany puts you in jail in kind of a detention center until they send you back to France. Dublin 3 prevents this. That's illegal. You can't do that. Dublin 3 also says that asylum seekers in Dublin, within the Dublin procedure, have the same rights as normal asylum seekers. They have the right to housing, they have the right to a small amount of money every month, they have the right to make an appeal in court, they have rights, they have a right to stay, which Dublin 2 was not doing. So Dublin 3 is it's an improvement.
Alors pour traduire un peu ce que disait Olivier Delada, on peut dire que Dublin 2 appartient déjà à l'histoire, puisque Dublin 3 devrait être appliqué à partir de juillet prochain. En tout cas, les gouvernements de l'espace Schengen doivent l'appliquer dans leur législation et même pas l'adapter, ils n'ont pas le choix. Alors on peut dire que Dublin 3, comparé à Dublin 2, c'est plutôt mieux. Dublin 2 avait en fait deux objectifs. Le premier, c'était d'empêcher les demandeurs d'asile de demander l'asile dans plusieurs pays. C'est-à-dire que les demandeurs d'asile ne pouvaient pas choisir le pays où ils pouvaient vivre. Le premier pays où ils arrivaient dans l'espace Schengen était celui où ils devaient faire leur demande d'asile. Et techniquement, ils ne pouvaient pas faire de demande d'asile ailleurs. Et le deuxième objectif donc, de Dublin 2, c'était de forcer les membres, en tout cas les pays membres de l'espace Schengen, d'appliquer la législation du droit d'asile. Alors avec Dublin 3, il y a des modifications. Par exemple, les demandeurs d'asile, avant d'être renvoyés dans le pays d'où ils viennent, en tout cas quand ils se sont déplacés d'un pays à un autre pour y faire une autre demande d'asile, ne peuvent pas être mis en prison. Alors actuellement en France, ce n'est pas le cas, mais en Allemagne par exemple, si vous voulez faire une demande en France, une demande d'asile en France, que vous passez par l'Allemagne et que vous êtes en Allemagne, eh bien, vous pouvez être mis en prison pendant le délai d'attente en Allemagne. Donc ce sera plus possible avec Dublin 3. Et on peut dire aussi que Dublin 3 est meilleur dans le sens où les demandeurs d'asile qui seraient soumis donc, au régime de Dublin et les autres demandeurs d'asile donc, plus classiques, entre guillemets, auraient les mêmes droits, c'est-à-dire le droit au logement, le droit à l'allocation, les recours en justice, etc., etc.
إذن مستمعين الأعزاء تحدث سيد أوليفي من منظمة أدا. أدا المنظمة المعروفة في غرينوبل واللي هي اختصار لمنظمة استقبال طالبي اللجوء أكيد دو مندق دازيل. فبدأ حديثه حول التعديلات اللي بيتكلم عنها كتير جدا من طالبي اللجوء واللاجئين حاليا في فرنسا عن وجود تعديل للقانون اللجوء في فرنسا. فأوليفي نفى تماما وجود أي تعديل أو أي تغيير للقانون بتاع اللجوء في فرنسا. وآخر تعديل على حسب ذكر أوليفي كان المعمول به لغاية الآن هو بتاع 2008، وهو أكد أنه في اقتراحات لتعديل أو تغيير بعض قوانين اللجوء اللي ذكرها الرئيس الحالي فرانسوا هولاند ضمن الحملة الانتخابية بتاعته، لكن ما تم إجراء أي نوع منها لغاية الآن. وتحدث عن الفترة الزمنية اللي دائما بتكون مطلوبة لدى طالب اللجوء انتظارا حتى يتم التقرير مثلا أو الرد في طلبه، واللي بتبدأ بمروره عبر الأوفبرا، ثم انتظار قرار الأوفبرا، ثم انتظار الطعن في قرار الأوفبرا في حال أنه كان الرفض، وانتظار الرد عليه من المحكمة الكوغ ناسيونال. المسائل اللي هو قال ممكن تاخد 18 شهر، وطبعا في الواقع ممكن تاخد سنوات أكتر من كده بكتير، يعني امتدت مع كثير من طالبي اللجوء مثلا لأكثر من 3 سنوات، في حالات ممكن تصل ل4 سنوات. أوليفي برضو يتكلم حول دبلن 2، الاتفاقية بتاع دبلن 2 في 2003، واللي قال حتكون تاريخ في المدى القريب باعتبار أنه في اتفاقية جديدة اللي هي دبلن 3 حتبدأ في شهر 7، يكون جاري العمل بها في الاتحاد الأوروبي وكل المنظومة بتاعة شنغن. دبلن 3 هو بكل أفضل مقارنة بدبلن 2، وبتدي طالبي اللجوء حقوق أكتر. على سبيل المثال، لا يمكن مثلا ضمن اتفاقية دبلن 3 وضع طالب اللجوء في حال طلب اللجوء مجددا مثلا للمرة الثانية ضمن دول الاتحاد الأوروبي. المثال ضربه بالتحديد، إذا أنت طلبت اللجوء مثلا في فرنسا وانتقلت لطلب اللجوء في ألمانيا، ألمانيا دايركلي تأخذ طالب اللجوء بتخطه في السجن أو في مراكز الترحيل إلى حين إعادته إلى فرنسا. هو نفى أنه الأمر ده ما بيحصل في فرنسا، لكن أكد حدوثه في ألمانيا. على كل أكد أنه دبلن 3 بتمنع تماما وضع طالب اللجوء في السجن حتى زمن إعادتهم مثلا للدول اللي هم أصلا مفروض تكون هي مسؤولة من دراسة الملف بتاعهم بحسب النص بتاع اتفاقية دبلن ومنظمة الشنغن. برضو قال في دبلن 3 في تعديل على أنه كل طالب اللجوء بيكونوا يعني عندهم نفس الحقوق، يعني حتى إذا طلبوا اللجوء مثلا مجددا في دولة تانية مخالفين للقانون بتاع دبلن. طبعا ده بيحصل هسينا مثلا في فرنسا يوجد قوانين محلية مثل قانون البروسيجور بيوريتير اللي بيمنع طالب اللجوء مثلا في تحت القانون بتاع دبلن من حقوق زي السكن، من حقوق زي الدعم اسمه ارسا ولا اتا ولا كده. فكل الاشياء دي بيقال انه جرى تعديلة في دبلن 3 اللي مفروض تاخد مكانها في شهر 7 القادم. الحديث الجاي اللي حنسمع له الحديث بتاع بيير بتاع حقوق الانسان.
Nyanga opio chuya bara manya bedmer mama mara bero no poke bedmer mana tege chuite no mer bero go oni banu tume no tor aduno ngi ting tinya wito no chol utuma na lor amanya pisa manya lapa manya mer au amanya amaharo manya na bad yao black ski one pop gol mara be eno japina ro en kido mar gi nyuta mer ana budi chiu unaga kulpi anwe bodo ko kemer ne jure lambi bo jia
ke jebe je vais la paix, c'est que je vais, je vais la paix. Lakini bado hujaniambia
kifua ni damu imetumwagikia tumeshindwa kuvumilia since when you gone life is on the street we are feeling so bad na pele tuko moja kona inchi wazalendo tuishi kwa amani tuonyeshane upendo tushikane tujuane tukikosana tusameane tuwe hamwe tusitengane abantu bose ndabakunda cyane.
Dalkeni wana, dalkeni wana, dalkeni wana, dalkeni wana. Allo no dayi labatiyo barwaqo, idikuna amin, 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 amin.
C'est né depuis une discrimination. La Ligue des droits de l'homme lutte contre les discriminations. La première discrimination, c'était effectivement pour l'affaire Dreyfus, où un homme, sous prétexte qu'il était juif, a été considéré comme un espion. Et donc, il était condamné, et un mouvement anti-Dreyfusard, qui était très important, et les pro-Dreyfusard ont aussi permis la création de la Ligue des droits de l'homme. Alors, cette Ligue des droits de l'homme, pourquoi elle est ici? Parce que c'est une association généraliste. Par rapport à l'ADA, par rapport à beaucoup d'associations qui ont comme fonction de l'accueil des étrangers sur le territoire et le respect du droit d'asile. Alors maintenant, on ne va pas refaire toute l'histoire, effectivement, et toutes les évolutions de ces associations et de notre place dans ces associations. Reste à savoir qu'on est là dans une politique mondiale où, effectivement, on donne le droit au capital de circuler, et puis aux marchandises de circuler, mais pas aux hommes. Et donc là, on est dans une situation où on s'aperçoit que finalement, on considère l'étranger comme étant quelqu'un qui va venir chercher le travail des Français et qui va dégringoler l'espace économique de la France.
On va revenir plus tard sur le combat, peut-être en général, de la Ligue des droits de l'homme et sur la lutte contre les discriminations et tout ça, mais là, juste la question, c'est plus particulièrement sur les demandeurs d'asile. Du coup, qu'est-ce que la thématique droits de l'homme vient faire dans les dépôts de demande d'asile, en quoi ça peut jouer ou pas, et du coup, en quoi la Ligue des droits de l'homme peut intervenir ou pas sur des dossiers de demande d'asile?
La Ligue des droits de l'homme peut intervenir parce qu'il y a un service juridique à la Ligue des droits de l'homme, il y a une Fédération internationale des droits de l'homme aussi qui regroupe les différentes associations, qu'elles soient ivoiriennes, guinéennes, et c'est quelque chose qui est très imprégné, c'est ce que je vous dis, les gens qui viennent ici, souvent d'Afrique, revendiquent les droits de l'homme aussi.
Du coup, qu'est-ce que concrètement des demandeurs d'asile qui arrivent en France pourraient demander en s'adressant à la Ligue des droits de l'homme, en quoi ça
ils peuvent demander exactement ce qu'on peut demander à l'ADA, et si on s'est rapproché de l'ADA, c'est parce qu'effectivement les droits de l'homme doivent être respectés, et avec l'ADA on travaille en collaboration parce qu'on a aussi nos réseaux.
Toi, qu'est-ce que tu penses pour la situation des demandeurs d'asile en termes de droits de l'homme? Est-ce qu'ils ont les mêmes droits Est-ce qu'ils bénéficient en général des droits de l'homme, ou est-ce qu'ils en ont plutôt plus ou plutôt moins que
Ils ne bénéficient pas des mêmes droits de circulation, déjà, des mêmes droits pour arriver sur une terre qui se dit une terre d'asile. Alors que les premiers pas qu'ils font sur cette terre, c'est déjà d'aller à la préfecture se faire enregistrer, c'est déjà de déposer un dossier douteux, diront les gouvernants, quelle que soit la couleur politique qu'ils peuvent avoir. Et puis après, ben, ils finissent quasiment devant un tribunal pour savoir s'ils ont le droit ou pas le droit de... Donc ça, c'est complètement aberrant. C'est quelque chose qu'on ne peut supporter quand on croit que l'homme peut circuler sur toute la Terre. Et donc là, on est à l'unisson avec des associations comme l'ADA. C'est bien évident. Et c'est évident que dans la pensée française, on a peur de l'étranger. Et pourquoi on fait peur maintenant? Parce que tous les médias prennent ce thème en disant « c'est les étrangers qui viennent ruiner l'économie des Français ». C'est ça le combat, c'est d'expliquer qu'effectivement, vous avez la liberté de circulation, et si vous êtes parti de votre pays, que vous risquez dans votre pays, si vous retournez dans ce pays, être exécuté, torturé, je ne sais trop quoi, il est normal que nous soyons dans une situation d'accueil dans un pays qui se dit le pays des droits de l'homme.
كان حديث بيخ مسؤول منظمة حقوق الإنسان رئيس منظمة حقوق الإنسان في غرينوبل حول وضعية حقوق الإنسان خاصة المتصلة بطالبي اللجوء وحول الخدمات اللي ممكن يقدمها مكتب المنظمة لطالبي اللجوء إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة. ففي الحقيقة ما كان في مثلا إجابة واضحة مثلا للخدمات المباشرة الممكن تقدمها منظمة حقوق الإنسان لطالب اللجوء إنما بيتم العمل والتنسيق بين منظمة حقوق الإنسان والمنظمات الأخرى العاملة في المجال ده زي منظمة أداء وسمات. برضو حقوق الإنسان بالنسبة لطالب اللجوء هنا بحسب كلام بيخ مسؤول المنظمة أنها بتتعرض للكثير من الانتهاكات وكثير من الاستغلالها يعني. وبيخ أيضا وضح يعني أنه في كثير جدا جدا من الانتهاكات اللي بتتم لدى طالبي اللجوء بمجرد تقديمهم للجوء في المدينة دي اللي اسمها غرينوبل. و اتكلمنا مع السيد أوليفي بتاع الأداء برضو حول الموضوع بتاع طلاب اللجوء واتحادهم وتعاونهم وتكاتفهم مع بعض وسألناه هل يمكن أن يكون لطالبي اللجوء كتلة أو اتحاد مع نفسهم عشان يقدروا يدافعوا عن حقوقهم هم بصورة مباشرة. معروف أنه كل المنظمات اللي بتدافع عن حقوق الإنسان هي منظمات مدنية تم مثلا عملها بواسطة النشطاء أو بواسطة الحكومات نفسها, لكن معروف أنه ما فيش اتحادات أو كيانات من طلاب اللجوء أو جمعيات أو روابط. سألنا أوليفي السؤال ده وهو حيجاوبه في الحديث الجاي.
Alors justement, c'est une question qui a été posée à Olivier, toujours de l'ADA. Pourquoi est-ce que les demandeurs d'asile ne sont pas unis entre eux? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'association, d'organisation de demandeurs d'asile? Et dans le fond, pourquoi est-ce que, en tout cas, est-ce qu'il a un avis sur pourquoi est-ce que les demandeurs d'asile ne s'organisent pas pour lutter pour leurs droits?
C'est pas évident parce que les demandeurs d'asile ne sont pas organisés. Et je pense honnêtement qu'ils ne le seront jamais. Parce qu'il y a énormément de nationalités différentes qui chacune sont organisées entre elles. Les gens sont organisés plutôt en communauté, que chaque demandeur d'asile vient pour une raison qui lui est propre. Il n'y a pas de raison collective qui font que les gens viennent faire une demande d'asile. Puis enfin, ce qui fait obstacle à l'organisation des demandeurs d'asile, c'est le fait que les situations sont extrêmement difficiles et que les gens ont pour urgence de trouver un endroit où s'abriter, de trouver de quoi se nourrir. Il y a une famille qui est arrivée là ce matin à l'ADA avec un enfant de 7 mois et qui dort dehors depuis un mois. Leur priorité à eux, c'est de trouver un abri immédiatement, c'est pas de s'organiser collectivement pour défendre les droits des demandeurs d'asile. Donc moi je suis assez pessimiste sur la facilité, voire même l'opportunité qu'il y aurait à ce que les demandeurs d'asile puissent s'organiser collectivement. Peut-être qu'il pourrait y avoir un syndicat des réfugiés
encore que lorsque les personnes obtiennent le statut de réfugié, on sait plus qu'une seule ambition, c'est de s'intégrer le plus vite possible, se faire oublier par le reste de la société, trouver du boulot, trouver un appart, reconstruire une vie à zéro. C'est pas comme travailler avec, c'est pas le même fonctionnement que des gens qui travaillent dans une usine qui ferme et qui sont confrontés exactement à la même problématique, qui viennent du même milieu. Donc moi je suis assez pessimiste là-dessus. Après, s'il y a un mouvement collectif de personnes, c'est plutôt bienvenu. Il faut arriver à fédérer des tas de gens qui ne se comprennent pas, qui ne parlent pas la même langue, qui ne sont pas de la même religion, qui ne s'entendent pas forcément. Vous le savez probablement que les Français sont pas les seuls racistes sur Terre, qu'il y a beaucoup de racistes parmi les étrangers aussi, des gens qui ne veulent pas parler à d'autres personnes parce qu'ils sont roms, des roms qui ne veulent pas parler à des gens parce qu'ils sont noirs, des noirs qui ne veulent pas parler à des gens parce qu'ils sont musulmans, enfin bon, bref, donc tout le monde finit par... Voilà, il n'y a pas vraiment d'unité, ce n'est pas vraiment un groupe. Alors qu'effectivement, ils traversent quand même, au sens large, des problématiques qui sont les mêmes, donc je ne sais pas. Mais monter un syndicat de demandeurs d'asile, ce qui serait vraiment une très très bonne idée, ça me semble assez compliqué. Mais voilà, rêvons un peu, il faudrait réfléchir à ça pourrait être une très bonne chose. Une association de demandeurs d'asile qui serait capable de promouvoir ses droits. Je pense que justement, si on peut manipuler, enfin si les partis politiques et différents gouvernements manipulent de manière aussi aisée les demandeurs d'asile, c'est aussi parce que bien qu'ils représentent une population qui sera relativement importante quand même, c'est une population qui a, enfin ce sont des, c'est un groupe humain qui a du mal à s'organiser, qui a du mal à réagir en tant que tel. Et donc, et c'est un petit peu troublant quand même, ils ne peuvent être défendus que par des gens qui ne font pas partie de ce fameux groupe humain. On n'entend jamais des demandeurs d'asile véritablement protester en tant que tel. Voilà, c'est toujours par l'intermédiaire d'associations qui ne sont pas demandeurs d'asile elles-mêmes et qui interviennent à la défense. Et c'est un peu dommage. C'est dommage, c'est très dommage. Je pense que c'est ça qui fait que, pour l'instant, jusqu'à présent, ça a toujours été un ensemble de gens qui se font allègrement piétiner par le gouvernant, quoi, par le législateur, entre autres.
Puis je veux dire quelque chose au niveau de la Ligue des droits de l'homme, c'est que vous avez un intergroupe parlementaire, sénateurs plus députés, qui adhèrent à la Ligue des droits de l'homme. La majorité des députés de l'Isère, des sénateurs, adhèrent à la Ligue des droits de l'homme. Et c'est une carte de visite importante pour eux, parce que en vitrine, ils montrent qu'ils sont d'accord. Mais dans le travail, par la suite, quitte à faire passer des nouvelles lois quant à l'accueil des étrangers ou le droit de vote des étrangers, il n'y a plus personne. Parce qu'on regarde son électorat et l'électorat n'est pas prêt encore à dire que tous les hommes peuvent circuler sur la terre là où ils veulent. Même si certains retraités français trouvent qu'il est plus facile d'aller vivre au Maroc. Eux, ils n'ont pas besoin de passer des visas ni rien du tout. Mais nous, on vous retient. Qu'est-ce que vous venez faire dans notre paradis, venir souiller notre paradis? Et c'est ça qui nous révolte, nous, en tant qu'adhérents ou militants à la Ligue des droits de l'homme. Nous ne sommes pas des bénévoles à la Ligue des droits de l'homme, nous sommes des militants.
إذن مستمعينا الأعزاء أهلا بكم مجددا أزيل الفق ما زال العدد مستمر لنوه كل المستمعين اللي بيستمعونا في ثلاثة لغات أولا اللي بيستمعونا في اللغة العربية يمكن التواصل عبر المجلة الإذاعية عن طريق الإيميل azilfeq@yahoo.fr معنى FR يعني وممكن برضو الاستماع للعدد ده عن طريق الانترنت في RTE Audio Blog المدونة الصوتية بتاعت RTE Audio Blog ممكن الاستماع لكل الأعداد بتاعت المجلة الإذاعية ممكن برضو لكل طالبين اللجوء اللي عندهم الرغبة في المشاركة في المجلة الإذاعية التواصل عبر منظمة أدا ممكن السؤال عن أزيل فرق في المنظمة أي موظف في المنظمة ممكن يدل أي طالب من طالبي اللجوء حول كيفية التواصل مع المجلة لعرض رؤاه أو أفكاره أو لذكر تظلم مثلا إذن أوليفي جواب عن السؤال حول إمكانية اتحاد وتلاحم طالبي اللجوء من أجل الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بإنصافهم وحقوقهم اللي مفروض امتدادها على حسب فكرنا يكون بيشمل حق العودة لأوطانهم باعتبار أنه الأوطان اللي هم لجوا منها أول مرة وأوطانهم الأصلية هي الحل الشامل للقضية بتاعت معاناتهم مثلا في البلدان اللي هم طالبين فيها اللجوء. نحن نتكلم بالتحديد عن أوروبا وبالتحديد عن فرنسا مثلا. كل طالب اللجوء اللي موجودين هنا مفروض يكون الحق الأول اللي هم بيسعوا لتحقيقه هو الحق الأكبر الشامل لحل المشكلة بتاعتهم هو حل العودة, حق العودة للديار. حق العودة للديار حديث طويل جدا جدا بنحاول بنخصص له في الأعداد القادمة مساحة كبيرة. أوليفي ذكر أنه في مشاكل كثيرة جدا بتمنع طالب اللجوء أنه يكون عندهم كيان متحد, من ضمنها مثلا قال الروتين الثابت بتاع الأولويات. يعني طالب اللجوء بيعيش في ظروف صعبة جدا جدا, بيكون مطلوب منه معظم الوقت أنه يسعى عشان يوفر لنفسه مثلا الأساسيات بتاعت الحياة. هو بكون عايز يفكر في حاجات كثيرة بتخص أول شيء الملف بتاعه بتاع اللجوء, عايز يمشي قبل المحامي, عايز يمشي يعمل ترجمة, عايز يمشي يكتب الملف بتاعه والكيس القصة, عايز يمشي المنظمة الفلانية ويطلع من المنظمة الفلانية ويخش المنظمة الفلانية. بالتالي ما بيكون عنده كثير من الوقت عشان هو يفكر مثلا في عمل نشاط أو عمل جماعي. بالتالي ممكن يكون له ضغط عشان يساعد في تنفيذ مثلا المسؤولين أو الحكومات لحقوق الطالبين ديل. السبب الثاني اللي قال بيمنع تجمع طالبي اللجوء في اتحاد مثلا قدومهم من بلدان مختلفة, بالتالي كونهم بيتكلموا لغات مختلفة ده بيصعب كتير عملية التآلف أو التقارب بين الجنسيات المختلفة دي. وبرضو أشار لحاجة خطيرة جدا جدا وهي وجود العنصرية وسط طالبي اللجوء أنفسهم. So that means even the asylum seekers themselves have the problem of the racist, as Oliver says that some of them don't want to leave or college or talk to other, so it makes it more difficult that to unite or to struggle or to have some collective actions together in order to defend their rights and the biggest right that they should defend at least together is the right of returning back home. Most of them are living in these bad situations and they don't accept to continue like that, but they don't have the right of going back. So at least that should be a reason for all the asylum seekers to work together, discuss together, and to think about how they can solve over their problems.
Alors justement, c'est la réponse d'Olivier, c'est qu'il existe aussi des divisions parmi les demandeurs d'asile, des problèmes de racisme, des communautés qui ne sont pas liées entre elles, et des demandeurs d'asile, demandeuses d'asile qui ne sont pas venus aussi pour les mêmes raisons dans le pays d'accueil. Et ça devrait être, comme le disait Glad, l'une des raisons de l'union des demandeurs d'asile, en tout cas de s'organiser pour lutter pour leurs droits, qui est que... ils ne peuvent pas, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, rentrer dans leur pays, et que c'est donc un motif qui devrait faire que, en tout cas, qui devrait encourager à s'unir et à dépasser les clivages. Et justement, on va donc écouter de nouveau Olivier, qui va nous parler de ce qu'il pense d'Asile FR et de des tendances actuelles en France et en Europe vis-à-vis des migrants.
In terms of how to help ALA, I think the best way to help ALA is to promote asylum. The way, I mean, what you're doing, Asile FR, is it's a support. It's this kind of support that helps most. There is a massive opinion wave in the French society and in the European society in general against asylum seekers, against foreigners. The extreme right is rising, Any laws that are being passed at the moment are only trying to constrain more asylum, to put more pressure on migrants in general, not only asylum seekers, but more pressure on migrants. For example, the past interviews given by the Minister of Interior yesterday, when this report on the round tables was made public, is a big example of this. For the past 3 or 4 months, there's been so much talk in the media, within political parties, within organizations, in the general public, about how migrants are becoming too numerous. The pressure is too big for the French society to resist it or to absorb it. That's the talk. And this idea is growing in the French society. More and more people are thinking there are too many migrants in France and we can't take it anymore. The fact that there are not too many foreigners in France, there can't be too many foreigners in France because basically everyone is a foreigner in France. Some of us have an ID card, some of us don't have an ID card. And that's about the ID. When like, for example, this the round table that was just finished yesterday, the starting point of this roundtable was saying there are too many asylum seekers in France. 70,000 asylum seekers this year, that's too many, and it's been increasing for the past 5 years, and it's putting too much pressure on the asylum system. We can't face it anymore, we don't have enough money anymore, we don't have enough accommodation anymore to put everyone. And we stood up against this because this is not true. It's quite simply not true. The number of asylum seekers has remained stable on the long period. For the past 20 years, there has not been an increase in asylum seekers. It goes up and down. For the past 5 years, the number of asylum seekers has increased. But for the 5 years before, it has decreased. So we're getting there at the moment. We're reaching about 75,000 new asylum seekers this year, which was about the number that was in 2003. Same number, 2003. There was no increase. I mean, it keeps on increasing, but just like the French population is increasing, just like the population in the world in general is increasing.
Pour reprendre les propos d'Olivier, essayer de les traduire, ce qu'il disait, c'est que pour lui, ce qui était fait avec Asile FR, c'était le genre de soutien qui pouvait aider le plus les demandeurs d'asile en termes d'information. Qu'actuellement il y a des courants importants en France et en Europe en général contre les migrants et les étrangers. En témoigne la montée par exemple des mouvements d'extrême droite ou les dernières lois qui ont été votées à peu près partout et qui contraignent encore davantage l'accès à l'asile et mettent une pression encore plus forte sur les migrants. Alors il cite des exemples, donc pour exemple la dernière interview du ministre de l'Intérieur hier, après qu'ait été rendu public le rapport d'une table ronde autour de ces questions. On témoigne aussi, au cours des 3 ou 4 derniers mois, beaucoup de discussions dans les médias, dans l'opinion publique, comme quoi il y aurait beaucoup de migrants qui seraient devenus trop nombreux, etc. Et donc ces idées prennent de l'ampleur dans la société française. Il y a trop d'étrangers en France, etc. Ce qui est impossible, puisque tout le monde est étranger en France. Alors, pour revenir sur cette table ronde qui s'est tenue hier, le point de départ, c'était qu'il y avait trop de demandeurs d'asile, environ 70 000, et que ça met trop de pression sur le système d'asile, qu'on ne peut plus y faire face, qu'on n'a plus d'argent, plus de logement, que le chiffre monte depuis plusieurs années. Mais en fait, ce n'est pas vrai, puisque le nombre de demandeurs d'asile est stable depuis environ 20 ans. Le chiffre monte et descend, mais par exemple, les 5 dernières années, le chiffre était à monter, mais les 5 années d'avant, il avait baissé. En ce moment, il y a environ 75 000 nouvelles demandes d'asile, ce qui est exactement le chiffre de 2003. Et finalement, le chiffre monte un peu comme celui de la population française.
مرحباً بكم مجدداً مستمعين الأعزاء. إذن واللي فتحدث حول مؤتمر أقيم بواسطة منظمات عديدة في الأشهر الماضية تحدث عن الأشهر الأخيرة حاول حديث كثير جدا جدا في الإعلام حول الأجانب وقضية الأجانب وربما تزمر الأحزاب دي مثلا من أن الأجانب أصبحوا عبئا كبير مثلا على الحكومة لأنهم كثيرين مثلا ويشكلوا ضغط مثلا كبير جدا جدا على الميزانية واستطرد قال ما في أجانب أصلا في فرنسا، لأنه قال الكل هنا أجنبي، يعني فقط في ناس عندها بطاقات هويات وفي ناس ما عندها هويات، لكن الكل أجانب. وبالتالي اتكلم عن المؤتمر، رفع توصيات لوزير الداخلية عن مثلا 70,000، هم بيقدروا مثلا اللاجئين ب70,000 لاجئ، وبيقول العدد ده ما صحيح، يعني التطور مثلا في العدد أو النمو بتاع عدد اللاجئين مرادف للعدد أو التطور اللي بيحصل أصلا في العدد بتاع السكان المحليين حتى مثلا الفرنسيين، وده الشيء الطبيعي اللي بيحصل مثلا برضو كتطور لعدد السكان عالميا. قارن بين 70,000 لاجئ مثلا قدموا إلى فرنسا و40,000 فرنسي مثلا هاجروا إلى خارج فرنسا برضو بأسباب العمل، أكيد ما هم ما بيعيشوا نفس الظروف اللي بيعيشوا الأجانب اللاجئين بالتحديد هنا في فرنسا. ونحن في رأينا الزيادة في العدد بتاع اللاجئين بيكون شيء نتيجة حتمية، نتيجة الحروبات، الضغوط اللي بتحصل اقتصاديا وأمنيا في البلدان المصدرة للجوء، وما حيكون مثلا في تغليص للعدد ده فقط بمجرة اتخاذ سياسات مثلا داخلية هنا مثلا، لأنه الأمر ده بيتطلب حل شامل، والحل الشامل ما ممكن طبعا عمله إلا في البلدان اللي بيكون فيها الأسباب اللي بتدعو الناس أنها تهاجر وتغادر وتسيب أوطانها وبلدانها. على سبيل المثال وضح سوريا باعتباره مصدر كبير جدا جدا لطالبي اللجوء مثلا في الفترة الأخيرة، وكذلك العديد من البلدان المعروف عنها أن بلدان يعني فيها مناطق شدة كثيرة وفيها مسببات اللجوء. نذكر أنه حديث الأمين العام مثلا للأمم المتحدة كوفي عنان في 26 الفات اللي كان اليوم العالمي للاجئين بيتكلم عن أن 4 أشخاص يعني بمعدل الثانية الواحدة أقل شيء بيغادروا أوطانهم غصبا عنهم، فدرت بيخلي التزايد في عدد اللاجئين وطالبي اللجوء ما حيكون عنده ستوب.
5 million people in the world refugees, yeah. Most of them are living in very dire situation, very dire conditions in poor countries. Syrians are refugees in Jordan or in Lebanon. Afghans are refugees in Pakistan, but most people too do not want to stay far from their own country because they hope to go back to their own countries and go back to their homes and go back to their lives. So they don't want to move that far. Keep up.
Donc il y a 45 millions de réfugiés actuellement dans le monde, et dont la plupart sont dans des situations très difficiles. Ils vivent dans des pays très pauvres. Des réfugiés syriens au Liban, en Jordanie, des réfugiés afghans au Pakistan, et la plupart ne veulent pas rester loin de leur pays, ils n'ont pas le choix, ils veulent rentrer chez eux.
إذن 45 مليون لاجئ حول العالم وكلهم في ظروف متشابهة في كونهم بيعيشوا خارج أوطانهم بصورة غصرية. العدد مهول، وفي نفس اللحظة من يعني ممكن يشكل مجتمع كبير جدا جدا يعني يسعى بصورة جادة وصورة حساسة لإيجاد حلول شاملة للقضية بتاعت اللجوء. في دعوة موجهة عبر المجلة الإذاعية أزيل إفاق لكل طالبين اللجوء واللاجئين السودانيين في فرنسا وفي أوروبا وفي العالم بأسره، للالتحام وللاتحاد حول الحل الشامل لنا كلاجئين سودانيين أو كطالبي لجوء سودانيين أو كمهاجرين سودانيين، للعمل من أجل العودة وجعل العودة خيار يعني ممكن يكون مقبول لدى كل السودانيين خارج السودان، والعمل على ذلك. معروف الآلية الوحيدة الممكن تخلي ده ممكن ويكون شيء إيجابي، وهو تغيير النظام أو إسقاط النظام هو المطلوب مثلا بالتحديد. في الفترة الأخيرة كان في زيارة لوفد من الجبهة الثورية، كان وفد كبير المستوى مثلا بتاعه، طبعا لأنه بيطمن رئيس الجبهة الثورية مالك عقار، كان بيطمن ياسر عرمان، بيطمن نصر الدين الهادي تقريبا، وآخرين كتار، عبد الواحد نور، مني مناوي. في لقاءات كثيرة اتعملت مثلا عبر الوفد ده مع الحكومات والمسؤولين هنا في أوروبا، في فرنسا بالتحديد كان في ندوة وكان في مؤتمرات صحفية، لكن ما في الحقيقة لغاية هسه مثلا رؤية واضحة مثلا للنتائج الكاملة مثلا سياسيا عن الزيارة دي. بس احنا بنأمل يعني كلنا كسودانيين وبنعاني مثلا الظروف بتاعت الهجرة او ظروف بتاعت اللجوء، بنأمل انه تكون في نتائج فعلا ملموسة وإيجابية في بتغير في الوضع بتاع السوداني اينما كان، وبنناشد كل الأحزاب المعارضة وكل الحركات اللي مثلا بتحارب من أجل الاستقرار ومن أجل السلام ومن أجل الأمن هناك، بنناشدهم أنهم يولوا كثير من الاهتمام أو مزيد من الاهتمام للشعب السوداني وأطيافه اللي هم حاليا برا السودان مثلا، وبعانوا ويلات ممكن تكون يعني مختلفة بالزيادة عن المواطن السوداني الموجود حاليا هناك، باعتبار أنه في كثير جدا جدا من المسائل ومن الصعوبات اللي بتكون مخفية على الناس اللي قاعدة هناك، باعتبار أن ما ملمة بالظروف الحقيقية مثلا للاقتراب ده أو للهجرة دي أو للجوء ده. الناس ممكن تعمل حاجة واحدة يعني تضمن بها العودة الكريمة والحميدة لوطن مثلا يكون مستعد يستوعب طموحهم آفاقهم، يديهم مثلا الكرامة بتاعتهم ويقيهم الصعوبات اللي هم بتعرضوا لها مثلا إذا كان في أوروبا أو في أمريكا أو في أستراليا أو في كندا أو في أي مكان في العالم، أينما كان هناك لاجئ أو طالب لجوء أو مهاجر أو مقترب سوداني، يجب أن يكون عنده الفرصة بتاعة العودة للسودان وهو واثق أنه حيعيش في بلد عزيز ومكرم. وهذا ما بيتأتى إلا بإعادة تنظيم السودان كدولة جديدة بتستوعب كل مواطنيها.
Mr. President, won't you tell me why do I have to put up with all the lies? Promises you made for a better life, they were all in vain. I see my people die, good days are gone. What you waiting for? Why can't we stop this never-ending war? Tell my brothers rise, 'cause we're moving on. We'll together sing revolution songs. Oh,
سلامكم وبارك
والله الإسلام بريء منكم براءة الزيت من جنب ياكم
إذن مستمعينا الأعزاء هذا ختام عدد اليوم من مجلة الإذاعية أزيل الفيق على أمل اللقاء بكم في الشهر القادم يوم الأربعاء نفس الموعد من كل شهر أول أربعاء من كل شهر موعدنا دائما على أزيل الفيق 97 FM كذلك يمكن الاستماع للأعداد السابقة من المجلة على RTE Audio Blog وممكن مراسلة المجلة عبر بريد الإلكتروني أزيل الفيق @yahoo.fr وممكن التواصل عبر الآدلة كل المقيمين من اللاجئين ومن طالبي اللجوء ومن المتضامنين مع قضية اللجوء عبر الأداة وفي انتظار تواصلكم معنا.
Du coup, bah voilà, c'est fini pour ce sixième numéro d'Asile FR. On remercie Glenn à la technique et Glad, bien sûr. Alors, on rappelle les auditeurs qui peuvent écouter, réécouter l'émission sur Arte Audio Blog ou participer sur la page Facebook, envoyer un email à asilefr@yahoo.fr. Et enfin, à toutes les personnes qui sont en procédure de demande d'asile, qui peuvent aller à l'ADA s'ils veulent apporter des témoignages, participer à l'émission ou tout simplement s'impliquer davantage dans cette émission. Voilà, et on vous donne donc rendez-vous pour le 7e numéro en 2014. Ce sera le premier mercredi du mois de 7 à 8. Bye bye.
Bye bye.